Sophie Delpont, Marie-Pierre Vérot, Anne-Laure Chouin et notre invitée Sophie Vanni. Je vous sens bien entourée à mon avis. Vous allez rester Antoine Mercier avec nous jusqu'à 13h30, hein, vous savez y faire. C'est parti, dernière partie. L'actualité des idées dans cette dernière partie de la Grande Table avec l'historienne Sophie Vanige, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la Révolution française. Elle tisse des liens entre 1789 et le temps présent. La méthode Vanige, à la manière de Walter Benjamin, c'est faire du passé une catégorie du temps contemporaine du présent, pour résoudre les contradictions du présent sans instrumentaliser l'histoire, pour rendre indissociable conscience historique et conscience politique. Déjà auteur de la Révolution française, un événement de la raison sensible paru chez Hachette et de l'intelligence politique de la Révolution française chez Textuel, elle revient avec une double actualité éditoriale, un recueil de chroniques publié dans les 25 dernières années, le Radeau démocratique aux éditions Ligne, chronique des temps incertains, de la grève des cheminots de 1995 au printemps 2016, de la mémoire de la marche pour l'égalité de 1983 à l'histoire des guerres muséifiées, où le travail de l'historienne rejoint une fois encore celui de l'intellectuel dans une dialectique des temps passés et présents. Et puis un autre ouvrage, La Révolution française n'est pas un mythe, à paraître le 14 mars. Sophie Vanige, bonjour.
Bonjour.
Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, c'est d'ailleurs le titre de son ouvrage Programme paru à l'automne, et même François Fillon, surprenant ou pas, à l'approche de la présidentielle, tous prônent une révolution. Écoutez.
Je vais vous lire une page de Victor Hugo. Voilà donc ce que dit le poète. La révolution, c'est la France sublimée. Il s'est trouvé un jour que la France a été dans la fournaise. Les fournaises font pousser des ailes. Et de ces flammes, cette géante est sortie archange. Aujourd'hui, pour toute la terre, la France s'appelle révolution. Et désormais, ce mot, révolution, sera le nom de la civilisation, jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le mot harmonie.
Évolution ou comment poser les bases d'une nouvelle société selon Emmanuel Macron. En 265 pages, le candidat à la présidentielle livre son diagnostic sur l'état de la France et du monde. Nous sommes en train de vivre un stade final du capitalisme mondial, écrit-il. Il dépeint aussi sa vision pour l'avenir, mais toujours pas de programme présidentiel détaillé.
Révolution, c'est le titre, mais la seule tête coupée par Emmanuel Macron, c'est celle de François Hollande. Il dénonce ses fautes politiques, le débat sur la déchéance de nationalité. Il évoque aussi un manque terrible d'imagination. Emmanuel Macron écrit au gouvernement, aucune action utile n'était plus possible. L'ancien ministre, lui, prétend au contraire défier les règles de la vie politique. Je cite les petits arrangements entre obligés des partis. Disons que sa révolution est plutôt du genre socio-libéral.
Juppé, malgré qu'il se veuille le porte-parole de la modernité, tient un discours absolument ringard. Et il ne se rend pas compte que cette révolution conservatrice est à l'œuvre partout dans toutes les sociétés occidentales. Là, c'est le mot de Napoléon à ses ministres. N'ayez pas peur du peuple, il est encore plus conservateur que vous. Fillon a fait une campagne qui n'est pas celle de Nicolas Sarkozy. Moins triviale, moins brutale, était une campagne de transgression des tabous.
Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon citant Victor Hugo et puis François Fillon, sa révolution dans la voix de Patrick Buisson, de la révolution citoyenne et pacifiquement radicale du candidat de la France insoumise à la révolution conservatrice du candidat Les Républicains. Libération, où vous chroniquez, Sophie Vanige, en fait l'inventaire de ces révolutions qui arrivent, qui sont de bon ton et a sollicité plusieurs chercheurs, dont vous, pour nous éclairer sur le retour à la mode de ce concept enterré après 68. La révolution, une promesse démentielle qui tourne au coup de force idéologique pour l'historien François Cusset. Pourquoi convoquer ce mot? Quelle charge symbolique charrie-t-il aujourd'hui pour vous, Sophie Vanige?
Je pense que la charge symbolique du mot révolution a à voir avec la possibilité de considérer que le monde n'est pas naturel et que les acteurs de l'histoire peuvent, à un moment donné, prendre la décision de le transformer radicalement. Finalement, c'est ça une révolution, c'est changer radicalement les règles du jeu et faire en sorte que les règles qu'on a produites soient inscrites dans des lois qui lui donnent, qui donne à ces transformations une durée. Et là, dans ce qu'on a entendu, on a deux usages qui sont des usages qui ne sont pas du même temps. On entend d'un côté Victor Hugo et de l'autre côté Patrick Buisson. Ce qui est bien avec Patrick Buisson, c'est toujours limpide. Donc, tout de suite, il dit révolution et il met l'adjectif conservatrice. Mais la révolution conservatrice, ça a à voir avec quand même l'épisode de Vichy, révolution nationale. Et du coup, le mot révolution a été phagocyté ou a été retourné, hein, retournement énonciatif, la manière dont on s'en empare du langage, par le côté droit alors qu'il était du côté gauche. Voilà. Avec une promesse d'émancipation. Aujourd'hui, le mot reste feuilleté. Il y a à la fois la promesse d'émancipation, de transformation radicale, et puis ce danger d'une révolution qui transformerait les choses, mais dans le mauvais sens. Et donc, finalement, il est utilisable par n'importe qui, mais avec des charges qui sont très différentes.
Et quel appétit...
Je pense qu'on a entendu que c'était différent.
Quel appétit il est censé réveiller chez ceux qui l'entendent, ce mot « révolution » ?
À l'appétit d'une participation, d'une manière ou d'une autre, à cette fameuse transformation radicale, c'est-à-dire la possibilité de remettre en scène des imaginaires sociaux là où on nous dit qu'il n'y a plus rien à décider. Et quand je dis « on », c'est pas un « on » qui est complètement indéfini. C'est-à-dire il y a tout un discours qui s'est mis en place, qui était évoqué, c'était 68. Depuis 68, il y a tout un discours qui s'est mis en place d'une manière assez récurrente pour pouvoir affirmer que désormais il fallait vivre dans le monde tel qu'il était et qu'il ne fallait plus avoir l'idée de le transformer et que l'ennemi était la production d'idéologie. Et autour du mot idéologie, il y avait une charge négative extrêmement forte. Je crois qu'aujourd'hui, pour pouvoir sortir de l'impasse humaine dans laquelle on est ou dans laquelle sont les sociétés occidentales, mais pas simplement les sociétés occidentales, il va falloir revisiter cette question de l'idéologie. Dans quelle mesure on peut produire un imaginaire social sans avoir effectivement une certaine faveur à l'égard d'un discours idéologique, c'est-à-dire qu'ils défendent des conceptions du monde.
Réactiver cette promesse d'un futur meilleur montre à quel point finalement le présent est dépourvu de raisons d'espérer. Et si on s'accroche aussi au sous-titre de votre recueil de chroniques, Le radeau démocratique, chronique des temps incertains, c'est parce que les temps sont aussi incertains, justement, qu'il faut aller se projeter vers le futur, vers l'avenir et réactiver cette promesse.
Oui, je crois que la question du radeau, c'est un radeau métaphorique, mais qu'aujourd'hui il y a plein de petits radeaux, il y a une flottille de radeaux dans des îlots inventifs, qui sont pas visibles pour les gens qui ne les fréquentent pas, mais qui sont très nombreux, et qui sont effectivement projetés dans le futur avec ou sans le mot révolution d'ailleurs, mais qui s'intéresse à la possibilité de revisiter l'histoire pour pouvoir retrouver une puissance imaginative, c'est-à-dire non pas de faire de l'histoire une espèce de lieu d'origine, mais le lieu où on peut aller réouvrir des laboratoires et des imaginaires sociaux qui n'ont pas encore abouti, et éventuellement se redonner aussi du courage avec ces imaginaires sociaux. Et donc le radeau, c'est un peu ça, c'est comment on va pouvoir produire une embarcation qui permet de traverser les temps de naufrage pour pouvoir à nouveau élaborer quelque chose qui soit plus enthousiasmant, plus satisfaisant.
Antoine, voilà. Mercier.
Faire du passé une catégorie du temps contemporaine du présent, c'est quand même une alchimie qui n'est pas évidente à intégrer spontanément, parce que, cette phrase de Benjamin, parce qu'on se dit, le passé est passé, qu'est-ce que ça veut dire réactiver le passé dans le présent? Est-ce que c'est magique? Ou est-ce que ça se fabrique, ça se travaille avec une volonté, avec une politique volontariste?
Je pense que ça n'a pas à voir seulement avec le volontarisme. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est-à-dire que c'est une autre manière de concevoir le temps. Je ne vais pas entrer dans le détail de Benjamin, parce que ça nous emmènerait sur des terrains où je ne suis pas vraiment spécialiste. Mais les historiens qui ont cherché à mettre en œuvre cette contiguïté, je pense en particulier à Nicole Laureau, le temps qui les intéressait, c'était le temps de la psychanalyse. Ce temps de la psychanalyse n'est pas un temps linéaire et continu, c'est un temps discontinu, avec des nappes de temps immobiles, avec des retours et du répétitif, avec des boucles, et dans une certaine mesure, on ne décide pas à l'avance de ce qui va faire retour. D'où le retour de ce mot révolution alors qu'on le pensait vraiment périmé. Alors, il a fait retour à la fois par l'événementiel de 2010-2011 et puis il fait retour sur un autre mode plus inquiétant en fait, hein, quand on parle de révolution conservatrice. Donc il y a quelque chose qui se joue de toute façon du côté du sujet qui travaille sur un objet d'histoire dans ce va-et-vient, je dirais d'une manière qui n'est pas nécessairement volontariste. C'est-à-dire que c'est quand même des associations. Alors je dis pas qu'elles sont complètement libres, les associations, mais on peut pas associer n'importe quoi. On sait que c'est des analogones et que ça ne fait pas preuve en soi, mais que ça permet de construire un discours historique en tant qu'il permet d'éclairer le présent.
Bah, par exemple, si vous avez dit tout à l'heure, à la Révolution, on a inventé l'idée qu'on allait transformer le monde. Est-ce qu'avant, cette idée n'existait pas? Et est-ce que le fait que nous ayons perdu cette croyance que les hommes pouvaient transformer l'existant va faire ressurgir précisément l'idée de la Révolution, c'est-à-dire d'avoir une prise sur les choses?
Non, je pense, enfin, c'est un peu catégorique, mais je ne pense pas que ça soit aussi direct. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on parle d'un objet historique qu'il a des effets dans le présent. C'est plutôt l'inverse. C'est parce qu'on part d'une question du présent qui permet d'ouvrir un laboratoire historique puis de revenir vers le présent que quelque chose se joue dans le présent. Mais si on travaille un objet historique sans avoir eu une question du présent, il reste un objet du passé.
Oui, vous l'écrivez dans le Radeau démocratique, juste pour illustrer, revenir vers le présent, lester des questions qui se posaient, que se posaient les Athéniens ou les révolutionnaires français pour voir comment elles peuvent résonner avec nos questions. Mais alors, c'est quel type de questions qui peuvent résonner d'une époque à l'autre?
Tout à l'heure, on parlait de la question du contrôle démocratique. C'est une des questions qui animait aussi Nicole Leroux. La question du contrôle démocratique, si on visite la période révolutionnaire française, elle se joue dans la question du droit de résistance à l'oppression. Et donc, quelles sont les modalités juridiques qui ont été inventées? Et je pense que ça, c'est important d'expliquer. Il y a des modalités juridiques. Il se trouve qu'elles sont dans notre bloc constitutionnel. On peut les rapporter vers le présent. Après, les gens s'en emparent ou pas. Mais en tout cas, si on est soucieux du contrôle démocratique, eh bien, il y a quelque chose à revisiter dans les lieux qui ont inventé des modalités.
Vous pouvez être plus précis sur ce qui va être éventuellement là, dans cette situation, réinventé au niveau de la résistance à l'oppression, de ce qui pourrait être réinventé?
Sur le mode de résistance à l'oppression, je pense que ce qui peut être réinventé, c'est le fait d'en faire un outil judiciaire. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, parce qu'il est déjà juridicisé, puisqu'il appartient au bloc constitutionnel, la résistance à l'oppression, c'est pas uniquement manifester contre la loi travail ou faire nuit debout. C'est aussi produire toute une série de lieux où on réclame au nom de la résistance à l'oppression, en expliquant pourquoi. Pour le moment,
mais
c'est
qu'est-ce
pas
qu'on
fait.
Pourrait réclamer au nom de la résistance à l'oppression, par exemple, aujourd'hui?
On pourrait réclamer sur les médias qu'on a évoqués, le fait qu'il y ait une concentration absolue, on pourrait réclamer sur l'hôpital, on pourrait réclamer sur l'éducation, on pourrait réclamer sur énormément de champs qui sont aujourd'hui ce que Wendy Brown appelle la destruction du démos. C'est-à-dire que le système néolibéral produit une situation où le peuple est absenté. Bon, après, il peut s'absenter lui-même aussi, hein, c'est-à-dire que l'aliénation aujourd'hui est quand même assez forte, et donc l'apathie à avoir avec cette aliénation, et on est à un moment qui est quand même d'étiage démocratique extrême. Mais il y a la possibilité de retrouver des modalités d'action. Je pensais également, là pour Athènes, pas pour la Révolution française, mais à la question de l'ostracisme. L'ostracisme en tant que tel, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant dans une période populiste comme la nôtre, puisqu'il s'agissait de se méfier de gens qui pourraient prendre trop de pouvoir par leur charisme. Et donc, il y a quelque chose à revisiter. Pourquoi les Athéniens se sont posé cette question? Comment ils l'ont mise en œuvre? Pourquoi comment ils faisaient pour mettre en œuvre l'ostracisme? Est-ce que ça a été efficient ou pas? Bon, voilà un laboratoire qui est extrêmement intéressant à revisiter aujourd'hui pour les historiens. En tant qu'ils auraient quelque chose à dire pour comprendre pourquoi certains rêvent de la destitution de Trump par un impeachment, qui est quand même à voir avec l'ostracisme, et pour comment on pourrait peser avec cette question-là sur les figures populistes qui sont aujourd'hui quand même trois des candidats. On a trois populistes en lice,
c'est-à-dire
Marine Le Pen, Macron et Mélenchon.
Emmanuel Macron, vous le classez dans la même catégorie que Marine
Le Pen? Si j'ai un accord avec ce qu'a dit Virginie Martin tout à l'heure, important, c'est sur cette capacité à fabriquer plus des enjeux de charisme que des enjeux de programme. Et donc oui, c'est absolument une figure populiste.
Cela dit, Mélenchon, il a un programme quand même. On vient d'en parler.
Non, mais en tant que figure.
En tant que figure.
En tant que figure. Ouais. Hein, ça s'appelle GLM. Je pense qu'il y a quelque chose, peut-être aujourd'hui, qui n'échappe pas au populisme. Hein, peut-être que voilà, il y a quelque chose à interroger sur notre incapacité à ne pas être dans ce désir d'identification.
Dites, voilà, on va ostraciser trois candidats comme ça. Comment ça peut se produire? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question qui se pose?
Moi, j'ai pas dit qu'il fallait ostraciser trois candidats.
Je caricature.
J'ai dit que la question des populismes nous permet de questionner d'une manière vive la question de l'ostracisme ou la question de la résistance à l'oppression ou la question de la tyrannie. Qu'est-ce qu'on appelle la tyrannie au XVIIIe siècle? Qu'est-ce qu'on appelle une loi tyrannique? Enfin, il y a énormément de choses extrêmement intéressantes. Et c'est une autre manière de concevoir le métier d'historien. C'est effectivement de le concevoir en tant qu'il est un savoir sur le présent produit par ce va-et-vient, parce que l'histoire de l'humanité, finalement, est quand même l'histoire d'une collectivité qui a déjà pensé plein de choses et qu'il faut revisiter sans cesse pour pouvoir aller plus loin.
C'est pas une pensée majoritaire parmi les historiens?
C'est pas du tout une pensée majoritaire parmi les historiens, mais c'est une pensée qui a une histoire de longue haleine. Irénée Maroux, Marc Bloch, Nicole Loureau, et puis aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de séminaires qui se mènent là-dessus. Je pense à un séminaire qui se tient à l'École des hautes études à Marseille, autour de Jérémy Foix. Donc c'est une question qui anime les historiens. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas s'interroger comme historien sur la fonction sociale de l'histoire, sans qu'elle devienne asservissement, à des engagements qui seraient des engagements sans espace critique. Donc il faut tenir les deux bouts, il faut tenir la question critique et la question des lumières pour les citoyens.
Notre invitée, l'historienne Sophie Vanisch, pour deux ouvrages, Le radeau démocratique, chronique des temps incertains qui vient de paraître chez Ligne Édition, et pour un second ouvrage à paraître, ce sera à la mi-mars, La Révolution française n'est pas un mythe. France Culture, il est 13h13.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
La révolution, un mot qui a la cote aujourd'hui et utilisé de toutes les manières possibles. Le paradoxe, c'est que vous, l'historienne de la Révolution française, Sophie Vanisch, je vous appelais aussi à convoquer cette période, plus que ce mot, non comme un mythe, mais comme une histoire vécue, pour nous donner du courage, pour nous armer face à nos démocraties défaillantes. Elle ne nous offre pas, vous ne nous offrez pas un schéma d'action dans ces différents ouvrages, même si Antoine Mercier était en train de chercher une grille de lecture qui soit opérationnelle tout de suite. C'est pas un schéma d'action transposable tel quel, mais un ensemble donc de réinventions imaginatives, ce sont vos termes. La révolution comme un laboratoire dont on peut extraire un certain nombre de questions pour éclairer notre présent. Les révolutions sont l'acte par lequel l'humanité qui voyage dans le train tire le frein d'urgence, et de citer une fois encore Walter Benjamin, un frein d'urgence, un avertisseur d'incendie, avez-vous dit aussi. Où nous conduit ce train, Sophie Vanisch?
Le train actuel nous conduit à une dépendance totale dans la vie quotidienne à l'égard d'un petit groupe qui va disposer de la puissance et du pouvoir, des deux, puissance financière et pouvoir politique, avec une alliance qu'il faudrait décortiquer. Du coup, le mur, c'est en fait une situation de tyrannie extrême pour des peuples qui deviendront des populations, donc des troupeaux à gérer. Et donc, c'est quand même quelque chose qu'on ne pensait pas voir revenir à ce point. C'est une déshumanisation, puisque si ce qui caractérise l'humain, c'est d'avoir la liberté de penser et la liberté d'agir, sa liberté de penser ne lui permettra plus d'avoir la liberté d'agir, et à commencer par des contraintes sur le travail. Voilà. Donc il y a quelque chose d'une déshumanisation qui est aujourd'hui très importante et qui conduit les gens effectivement à ce que j'appelais tout à l'heure l'apathie.
Et pourquoi le système démocratique est-il bloqué? Les élections, notamment le système électoral.
Parce qu'il n'y a pas de contrôle démocratique au bout du compte dans le contexte à la fois européen de la dette. Et c'est-à-dire le le discours tenu, c'est-à-dire l'idéologie dans laquelle nous sommes, mais qu'on n'a pas voulu nommer idéologie, nous culpabilise de vouloir être démocrate. Donc, vouloir être démocrate, c'est quoi? C'est avoir un vrai contrôle démocratique. Donc, il n'y a pas de Troïka pour la Grèce, pas de banque européenne qui prête à 4%, mais qui prête correctement aux États à très faible taux. Et quand je dis 4%, parfois c'est plus. Donc, pas de système d'évaluation et de notation qui fabrique un imaginaire des peuples comme toujours coupable d'être trop dépensier. Or, un peuple est dépensier quand il fait quoi? Quand il s'autorise à éduquer les enfants de ce peuple. Et éduquer, c'est le fondement de la démocratie. Mais ça coûte cher, il n'y a pas de doute. Et donc, c'est un choix. Et la deuxième chose qu'on reproche à ces peuples démocratiques, qu'on culpabilise, c'est sur la santé. Et la santé, c'est la conquête, je dirais, du 19e et du 20e siècle. Donc, c'est une conquête du progrès technique en tant qu'il allait avoir des retombées sur l'ensemble des individus. Et donc là, il y a quelque chose où on retire les deux fondements, les deux piliers, qui sont ceux de la possibilité de se penser en démocratie. Et c'est ça qui coûte cher. Et donc il y a quelque chose qui est noué, et le reproche qui est fait constamment au peuple, aux individus, au gouvernement quand il dépasse les 3% en Europe, c'est finalement de vouloir de la démocratie.
L'idéal démocratique, nous disait Marcel Gaucher récemment sur cette antenne, l'erreur n'est pas sur l'objectif, elle est quelque part sur les moyens de le réaliser, cet idéal est de s'interroger sur les chemins à prendre. Vous évoquez notamment, vous, le passage par les arts pour fabriquer cet homme sensible, engagé et révolutionnaire. Un philosophe, Frédéric Brahami, de l'EHESS, auteur de La raison du peuple, un héritage de la Révolution française, lui évoque le recours éventuel quand même à la nation, et parle du divorce entre la gauche avec la nation. Peut-être qu'il y a là un chemin à prendre, écoutons-le.
Il est vrai que depuis un certain nombre d'années, la nation est vomie par la gauche, comme étant, non pas, alors même pas la nation en tant qu'elle serait responsable de la guerre et du colonialisme, même pas la nation dans ses formes pathologiques, si vous voulez, mais la nation en tant qu'elle institue une différence par nature, une différence nécessaire entre celui qui est membre de la nation, le français, et ceux qui ne le sont pas. Donc à partir de là, si la nation c'est le mal, dès lors qu'il y a des nationaux et des gens qui n'ont pas la nationalité française, si cela suffit pour rejeter la nation, ce qui se passe quand même un petit peu, sinon dans la gauche politique, au moins dans la gauche intellectuelle radicale, alors il ne faut pas s'étonner que la gauche ne soit plus capable de parler aux classes populaires qui, elles, continuent, et pour cause, à penser la nation comme une instance protectrice, hein, comme l'instance qui va être capable de les protéger contre, je ne sais pas, les agressions du marché, on va dire, et comme la seule source reconnaissable de leur parole.
Alors, on était sur cette métaphore du train. La gauche peut-elle encore accrocher les wagons sur cette question pour vous, Sophie Vanhiche? Est-ce qu'elle peut développer une conception progressiste de la nation, puisque vous nous le disiez à l'instant que l'Europe était quand même un point de friction, voire un point de blocage face à cet idéal démocratique?
Il y a beaucoup de choses qui sont dites par mon collègue, et à commencer par la question de la dimension protectrice. Mais la dimension protectrice, c'est pas la nation, c'est la loi. Et la loi, elle peut être à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne ou même à l'échelle globale, mondiale. Donc la confusion, c'est de savoir si on, pour être protégé, on a besoin de plus de nations ou si on a besoin de plus de lois qui soient des lois protectrices plutôt que des lois qui autorisent à vendre de la nourriture de mauvaise qualité, privatiser la santé, etc. Donc pour moi, la question est, de la nation avait un sens en 1789 parce qu'elle était le mot qui permettait de passer des peuples désunis à l'idée d'une unité pour l'ensemble du territoire, c'est-à-dire que c'est le passage d'une France des provinces et des villages à une France qui se pensait espace commun parce qu'elle était capable désormais de produire une loi commune. Et la demande qui est faite par la nation, c'est pas n'importe quoi, c'est une demande de constitution, donc c'est une demande de loi. Et donc si la nation était le lieu d'une loi protectrice, pourquoi pas ? Mais aujourd'hui la nation n'a pas disparu. Je veux dire, le système démocratique des élections nationales apparaît en panne. Mais il apparaît en panne parce qu'on a le sentiment que les lois qui sont prises sont toujours des lois qui dégradent la vie plutôt que ne l'améliorent. Donc la question n'est pas celle ni de l'identité, ni de l'espace national comme tel, mais de la possibilité de produire, avec contrôle démocratique, des lois bonnes, non tyranniques. Et du coup, la question me paraît ne pas être bien posée. C'est-à-dire que, pour moi, il n'y a pas à raccrocher les wagons sur la nation. Il y a des gens qui utilisent le national comme fétiche qui permet effectivement, dans un discours idéologique actuel, de se croire plus protégé par un système où le national est l'exclusion de l'autre. Mais le national n'est pas nécessairement l'exclusion de l'autre. Le national peut être pensé comme la cité hospitalière. On est dans une logique qui fait que la nation serait l'érection nouvelle de frontières entre ceux qui ont droit au droit et ceux qui n'ont pas le droit au droit. Et donc c'est la refabrique d'apatrides. Dans le journal, on nous a parlé des événements autour des enclaves espagnoles au Maroc. Mais ces enclaves espagnoles au Maroc, elles détruisent l'idée d'humanité, puisque des individus qui sont dans une détresse totale sont voués à se détruire sur des lames qui sont installées sur des murs qui disent la frontière à un endroit où elles ne devraient pas être par ailleurs, puisque ce sont des enclaves. Bon. Donc il y a quelque chose qui se défait. Et si l'humanité se défait, alors la nation des Lumières, elle se défait aussi, parce qu'on est dans des logiques d'inclusion. C'est-à-dire que la nation, elle n'a un sens émancipateur que si elle peut se penser dans des relations réciproques avec d'autres nations et fabriquer une cosmopolitique. Et si on parle du national sans la cosmopolitique, on tient un discours aujourd'hui réactionnaire, parce que, à nouveau, le mot nation est feuilleté. Et donc c'est logique que la gauche ne veuille pas du mot nation au point où nous sommes rendus du national. Au point où nous sommes rendus du national, il n'a plus le même sens qu'en 89.
Il n'empêche quand même que c'est le cadre à partir duquel peut-être on pourra récupérer une prise sur les choses.
Mais peut-être pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau national, ce qu'on voit quand il y a une reprise du national, que ça soit en Europe centrale, en Hongrie, en Pologne, que ça soit y compris du côté de notre situation française, ça va pas du côté émancipateur. Ce qui va du côté émancipateur, c'est plutôt des logiques qu'on appelle transnationales, ce qui ne gomme pas les points de vue nationaux, mais qui essaye de penser les articulations. Donc aujourd'hui, la question, c'est quelles articulations et pour produire quelles lois. Je pense que ce qui est trop absent à la fois de la campagne électorale et de notre conception du politique, c'est la question de la loi en tant qu'elle est le lieu qui inscrit dans la durée, dans une certaine durée, parce qu'elle peut toujours être défaite par les suivants, dans une certaine durée, une conception du monde. Et que c'est ça un régime démocratique, c'est un régime qui produit des décisions qui s'appellent des lois.
C'est d'ailleurs là que le mot révolution réapparaît le plus généralement. Il a d'ailleurs refait surface, on le disait, dans le champ lexical des politiques, mais pas forcément sur le terrain. Une révolution, vous le racontez dans vos deux ouvrages devenus indisponibles puis infréquentables après 68, car matrice des totalitarismes, la révolution reste synonyme pour beaucoup de violence, mais vous l'écrivez, c'est bien un désir de loi qui s'exprime dans la violence même, un désir de loi protectrice, de loi juste, le renouvellement d'un pacte réconciliant le souverain et ses représentants. Alors oui, le peuple exige d'être entendu, et s'il ne l'est pas, il rompt ce pacte déjà fort mal en point, Sophie Vanisch. Vous évoquiez tous ces petits radeaux démocratiques qui tentent de flotter sur cette mer très agitée actuellement. Comment faire commun? Ça reste une des questions aussi fil conductrice de votre travail, de votre recherche. Est-ce que la révolution numérique qu'on est en train de vivre aujourd'hui peut donner naissance pour vous à une nouvelle forme de révolution citoyenne? Est-ce qu'elle peut permettre cet espace de mise en commun?
Elle pourrait le faire si on était capable de faire obstacle à tout ce qu'on appelle les GAFA. Mais aujourd'hui, il y a une intrication tellement forte entre les lieux d'exploitation du web, Google et tous ceux qui vont avec, et les usages du web, que dans une certaine mesure, cet outil a déjà été ravi Après, il y a énormément de gens qui travaillent à libérer cet espace. Et donc, il y a une lutte au quotidien qui se fait à la fois avec les open source et avec les usagers des open source et avec un certain nombre de gens qui font du travail gratuit et donc qui inventent aussi une autre forme de solidarité à travers cette question du numérique. Mais à l'intérieur même de cet espace-là, il y a un conflit entre ce qu'on appelle des libertaires et ce qu'on appelle des libertariens. Et on est avec des oppositions qui sont majeures.
Là, parce que c'est
alors, libertarien, c'est le courant qui a inventé, par exemple, le revenu universel. Ce revenu universel, en fait, c'est quelque chose qui, à la fois, désengage l'État, puisque une fois pour toutes, il a donné à chacun la responsabilité de sa vie quotidienne par ce revenu universel. Et du coup, c'est une conception assez droitière où il n'y a plus de loi protectrice. Ce qu'il faut, c'est une absence d'État. Et du côté libertaire, c'est pas l'idée qu'il y a une absence de loi, mais qu'il y a un usage qui permet du web, qui permet à tout un chacun d'avoir accès d'une manière illimitée à tous les objets qui peuvent circuler, qui sont culturels. Donc c'est du côté du fondement démocratique qu'il y a une pensée du web. Donc c'est pas les mêmes. Donc il y a quelque chose qui est là aussi avec des contradictions qui sont à travailler. Les mêmes contradictions qui pouvaient exister dans les médias de la période révolutionnaire. C'est un lieu où les conflits sont extrêmes et où il y a des discussions constantes sur qu'est-ce qui doit être censuré, qu'est-ce qui ne doit pas l'être. Et donc la question constante, c'est où est-ce qu'on met de la contrainte, où est-ce qu'on n'en met pas.
Et où est la vérité, où est la réalité, quelle différence aussi entre les mots et les faits. Antoine, merci, une dernière question.
Et où est la loi finalement, parce que vous nous parlez de la loi, et en même temps on sait très bien qu'il peut y en avoir plusieurs de ces lois.
Alors,
ou pas.
Pour les révolutionnaires français quand même, la loi, ça reste la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc c'est-à-dire un lieu où on a inscrit un certain nombre de principes qui sont un peu des formules, comme des formules mathématiques, qui permettent d'avoir un repère, une pierre de touche, pour évaluer n'importe quelle loi dite positive. C'est-à-dire que ce droit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que ce soit celle de 89 ou de 93, en fait, c'est le critérium qui permet effectivement d'avoir une boussole pour se repérer dans l'évolution d'une société.
Et la question de l'universalisation se pose quand même.
Alors, c'est
excusez-moi,
encore un vaste sujet, évidemment. Mais je pense que là aussi, hein, si je ne sais pas, en écho quand même au texte de Balibar, je pense qu'on ne peut pas mettre sur le même plan tous les universaux. Et quand il explique qu'il y a une lutte entre les universaux, je pense qu'on peut prendre position sur l'universel de la Déclaration des droits en tant qu'il est très différent de l'universel chrétien et de l'universel d'autres religions révélées. Et donc il y a quelque chose qui se joue sur la capacité à tenir sur un universel qu'on estime être émancipateur par rapport à d'autres qui ne le sont pas.
Merci beaucoup Sophie Vanisch. Le radeau démocratique, chronique des temps incertains, est un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Ligne, recueil de 25 ans de chroniques, notamment dans la revue Vacarme et la revue Ligne, sachant que vous chroniquez aussi de manière hebdomadaire dans le quotidien Libération. Émission conçue et préparée par Claire Maillot et Clémence Marie, Henri Leblanc et Nicolas Dutemps, avec Iso Sicard et Inès McGriff. Aux manettes ce lundi, Charlotte Roux avec Jean-Guilain Meige. Podcastez-nous si vous le souhaitez, écrivez-nous si vous le souhaitez aussi à la page de la Grande Table sur France Culture. .fr. Demain, le comédien Stéphane De Groot sera notre invité en première partie de l'émission et l'économiste El Mouhoud, qui dénonce dans un livre qui vient de paraître les fausses vérités sur l'immigration, sera là avec nous à partir de 12h55. Très bon après-midi à tous.